L'activité humaine, c'est tout un thème. Hein. Alors, j'ai préféré commencer par l'origine de l'homme, d'où on vient. Donc, je vais vous présenter d'abord une grande nouvelle qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était juste avant qu'on parte en vacances, le 30 juin 2010. Il y a eu une grande découverte qui a été faite de 250 fossiles qui montrent en fait que les premiers organismes pluricellulaires, à partir desquels évidemment est né l'homme, eh bien remontent à 2,1 milliards d'années. Donc on pensait que c'était beaucoup moins. Hein, on pensait que c'était autour de 600 millions d'années. Donc vous voyez qu'on a fait encore un saut. Donc en fait la vie est apparue il y a fort longtemps. Alors et nous, l'évolution humaine, peut-être que vous le savez peut-être, hein, que Homo sapiens, il provient d'une lignée qui est apparue à partir de Australopithecus afarensis. On a Homo habilis qui lui tapait avec une pierre, hein, qui a réussi à envers la prédation à survivre. Il a donné Homo erectus, donc on découvre le feu à ce moment-là. Et puis Homo sapiens qui a des talents artistiques, hein, reconnus. Et puis vous voyez qu'il y a des lignées qui se sont éteintes, d'accord, qui n'ont pas donné en fait l'homme. Donc Homo erectus, lui, il cohabitait avec d'autres Australopithecus. Alors après, il y a plein d'hypothèses, est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés géographiquement ou pas. En tout cas, ils étaient contemporains. Mais nous, voilà, notre lignée, elle vient de Erectus. Alors, au niveau du temps, Habilis, vous voyez, ça remonte, il y a 1,5 million d'années, hein, en Afrique. Donc, on est loin des 2 milliards des premières formes de vie. Vous voyez qu'on est apparu tard, en fait. Hein. Homo erectus, lui, il a vécu en Afrique et en Eurasie, donc vers le Moyen-Orient, il y a 1,5-0,3 milliards. Et puis, nous, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 0,2 million d'années. Voilà, et puis, je voulais vous montrer sur cette diapositive aussi une représentation dans Nature. Vous savez qu'il y a deux grands journaux en science. Nature, on le prononce en anglais, on ne dit pas Nature, hein, qui est anglais. Et puis, Science, qui est américain. Et c'est vraiment deux grands journaux scientifiques dans lesquels les chercheurs, toutes disciplines confondues, hein, peuvent publier. Alors là, j'ai pris ça pour vous parce que je vous ai dit ça, c'est intéressant pour les lycéens que vous êtes, hein, de voir d'où on vient. Alors vous voyez, on a différentes représentations. Soit on fait un arbre, ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le vocabulaire. Et d'ailleurs, à ce propos, s'il y a un souci de vocabulaire, on est entre nous, vous m'arrêtez et puis je vous donne la définition ou vos professeurs la donneront. Hein. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites tout de suite. Donc, vous voyez, c'est un arbre, hein, dans le temps. Et puis, on se rend compte que nous, ben, on fait partie de la famille des grands singes. Hein. Et ben, on est à côté, on n'est pas très loin des bonobos, des chimpanzés, des gorilles. Vous voyez, nous on est en bleu, et puis on voit les autres grands singes. Donc en fait, on a un ancêtre commun avec le gorille. Alors là, on a une autre représentation avec des marqueurs de l'ADN mitochondrial. Ça vous dit quelque chose? Les mitochondries, l'ADN de la mitochondrie, et vous savez comment elle est héritée? Que par la voie maternelle. D'accord? Mais ça, je vais y revenir, c'est très fondamental. Hein. Donc là, à partir de l'ADN mitochondrial, Luis Quintana Murci a montré avec cet arbre-là la présence des humains, vous voyez, à côté des bonobos, comme on a vu, et des chimpanzés, où on a les gorilles. C'est une autre représentation. Mais ce qui est intéressant dans cet arbre, qui n'est pas enraciné, hein, vous voyez, on ne voit pas quel est l'ancêtre commun, il a un intérêt, c'est qu'on peut voir que, ben, on n'est pas très loin de Néandertal. Hein. Vous savez que l'ADN de Néandertal, il a été séquencé récemment. Si vous suivez un petit peu la presse scientifique, vous lisez Science et Avenir ou Science et Vie, pas tellement. Bon, vous pouvez, en français, il y a de très bons articles dans ces revues et ça vous tient au courant de l'actualité. Donc vous voyez, on a des ancêtres communs et évidemment de l'ADN en commun avec eux, c'est certain. Voilà. Alors, comment on peut définir la diversité des populations humaines? Donc là, j'ai mis une planète avec différentes couleurs. Ça ne veut pas dire la couleur de la peau, loin de là. Hein. C'est, on est tous différents les uns des autres. Hein. Et on a deux possibilités de définir la diversité des populations humaines. On peut faire ce que je viens de dire, de l'archéogénétique, c'est-à-dire aller rechercher dans les populations anciennes comment elles ont évolué. Donc ça peut expliquer comment nous on est à l'heure actuelle. Bon, très bien, on est près des gorilles, mais on va voir qu'on peut remonter encore plus loin dans le temps ou encore plus près dans le temps, mais comprendre par l'histoire. Hein. Notamment, la diversité humaine, elle s'explique aussi par nos comportements. Hein. Il n'y a pas que la génétique. Hein. Et qui dit comportement dit aussi culture, hein, le fait qu'on ait tel mode de vie qui est adapté à tel milieu, qu'on ait tel comportement alimentaire qui est adapté effectivement au milieu et puis à sa vie socio-professionnelle. Hein. Tous ces comportements-là vont faire qu'on appartient à un peuple, on appartient donc à une culture et au niveau génétique, Ça va se traduire évidemment par des différences ou des similitudes. Il y a des gens qui vont se marier préférentiellement entre eux pour des raisons culturelles, pour des raisons de filiation, de transfert d'un héritage. Hein. Il y a des peuples qui sont beaucoup plus mixtes. Il y a des peuples qui migrent, d'autres qui sont plus sédentaires. Donc pour toutes ces raisons-là, on va être différent. Et ça peut se voir au niveau génétique. Hein. Mais l'empreinte de l'environnement, c'est extrêmement important. Hein. Donc, sur le comportement alimentaire, sur nos déplacements, hein, sur la migration. Mais aussi, ça a une influence sur, évidemment, notre capacité à résister à des maladies. D'accord ? Ou notre susceptibilité à certaines maladies. Hein. Donc, il y a des maladies qui sont vraiment endémiques et spécifiques de certaines populations. Je parlerai du cancer du sein et de l'utérus, hein, qui intéresse nous toutes, hein, et je vous en parlerai tout à l'heure, et on va voir qu'il y a certaines formes hein, qui sont spécifiques de certaines populations. Hein. Donc voilà. Alors quand je parle de population humaine, alors évidemment il y a tous des débats sur la terminologie, un peuple, une population. Nous en génétique, hein, on parle de population, donc c'est un ensemble d'individus qui préférentiellement vont échanger des gènes, donc c'est-à-dire qu'ils vont se reproduire entre eux. Mais ces populations, hein, on peut les retrouver évidemment sur différents coins de la planète. Alors voilà des représentations de nous tous. Hein, donc quand on parle de diversité humaine, tout de suite on pense à la couleur de la peau. Ça, c'est quelque chose qui vient tout de suite à l'idée, la couleur des yeux et puis la texture du cheveu. On va dire, bon, on va classer les gens comme ça. Et en fait, c'est extrêmement grossier de faire ça parce qu'on va voir qu'il y a 3 millions de différences entre les individus, entre vous et moi, et qu'en fait, 95% de ces différences-là, elles n'ont pas d'effet sur le phénotype. Vous voyez ce que c'est que le phénotype ? C'est l'apparence. Hein. D'accord ? Alors évidemment, derrière le phénotype, il y a de la génétique. Donc, c'est quelques gènes qui vont faire la pigmentation de la peau ou des yeux ou de la texture. Mais en fait, il y a des tas de gènes dans notre génome qui vont contrôler des tas de protéines et notamment la susceptibilité à des maladies, au diabète par exemple, ou notre capacité à survivre à des milieux, il y a des populations qui survivent à des milieux extrêmes, alors que nous, on ne pourrait pas. Probablement parce qu'ils assimilent mieux le sel, entre autres. Donc, évidemment, ces différences-là, je vous l'ai dit, c'est influencé par la démographie, hein, le nombre de personnes. Hein. Et en même temps, c'est très important parce que ça va nous permettre de comprendre l'origine de l'homme. Ça, c'est évidemment essentiel. Et puis, toutes les migrations des peuples qui ont eu lieu il y a plusieurs milliers d'années. Et ça, on va le voir, et notamment avec l'agriculture. Donc, je vais vous illustrer ça. Donc, voilà toutes ces formes. Alors, les hypothèses de l'origine de l'homme, il y en a deux, hein, qui sont en retenue. Donc, les deux grands modèles, C'est l'hypothèse où, voilà, on viendrait de différentes régions, c'est l'hypothèse multirégionale. Hein. Donc voilà, on a Homo erectus qui va donner les Africains modernes, on a Erectus qui donne Néandertal, qui donne les Européens actuels, on a Erectus en Asie qui aurait donné les Asiatiques actuels, hein, modernes, et puis Homo erectus qui aurait donné un peuple, les Gondong, qui aurait donné les Australiens. Bon, alors ça c'est une première hypothèse. Et puis il y en a une deuxième, attention, qui est l'hypothèse de la sortie d'Afrique. On appelle ça Out of Africa, vous connaissez le célèbre film. Hein. Donc on a gardé ce terme-là. Hein. Et donc bah là, on se rend compte qu'Erectus, il a donné les différentes populations actuelles. Donc en fait, il est sorti d'Afrique pour aller s'installer en Europe, en Asie et en Australie. D'accord ? Alors, pendant très longtemps, évidemment, les chercheurs, ils ont travaillé sur ces différentes hypothèses. Et puis, ils ont décidé, parce qu'on travaille aussi avec des archéologues, hein, parce qu'il y a quand même des traces dans les poteries, l'organisation des premières civilisations. Dans ces poteries, on retrouve des restes de céréales, d'accord ? Donc on sait si ces céréales, elles ont été domestiquées ou pas, est-ce qu'on les cuisait ou on ne les cuisait pas, donc on peut comme ça dater. Puis évidemment, il y a la datation au carbone 14, bien connue. Alors, la sortie d'Afrique, elle est... on a une apparition, hein, je vous dis, de l'homme il y a à peu près 100 000 ans. Hein, il serait passé par le Proche-Orient. Et puis, il arrive il y a 60 000 ans. Hein, c'est le grand continent euro-asiatique. Hein, pour après redescendre en Australie entre 40 000 et 60 000. Hein. Donc, on pense plus tard que l'Europe, à partir de cette sortie il y a à peu près 60 000 ans autour de du Moyen-Orient, vers l'Europe. Voilà l'hypothèse actuelle qui est retenue. Alors ça, c'est quand même basé sur des travaux, bien entendu. Bon, alors après, évidemment, il y a d'autres voies hein, qui vont aller par le détroit de Bering, après vers l'Amérique du Nord, hein, ça vous connaissez, hein, les fameux passages. Bon, il y a une dernière hypothèse, on pense qu'il y a eu aussi un passage par le sud. Bon. Donc évidemment, toute cette histoire de migration, de différentes voies, ça va influencer la diversité génétique. Hein. Alors, au départ, bon, bah, tout le monde est différent, hein, vous voyez, Homo sapiens, et puis après, on se rend compte que, il y en a certains qui partent, vous voyez, je vous l'ai dit, par le Moyen-Orient, donc c'est une partie de cette diversité qui part, tout le monde n'est pas parti hein, du continent, certains sont restés, hein, et on peut encore avoir une histoire de leur diversité, hein. Et puis... Voilà comment la conquête s'est faite à travers le monde. Vous voyez que c'est une partie de la diversité qu'on retrouve en Afrique, mais pas toute l'Afrique se retrouve sur le globe. Et ça, c'est important à bien avoir en tête. Donc si on veut voir la plus grande diversité, il faut aller en Afrique, parce que on est originaire de là-bas. Voilà. Alors comment ils ont fait les chercheurs ? Donc je vous ai dit tout à l'heure, on peut prendre l'ADN mitochondrial, donc on voit les mitochondries hein, qui produisent de l'énergie. On sait que c'est hérité que par la mère, donc c'est une façon de suivre, en fait, toute la filiation maternelle. Et puis, on peut prendre le chromosome Y, qui lui permet de faire la filiation paternelle. Et quand on compare les deux, eh bien, d'abord, on peut avoir une bonne idée de comment se font les mariages, ça c'est sûr, hein, comment les fondations des populations ont été réalisées. Mais ça permet aussi de confronter les hypothèses. D'accord ? Alors, évidemment, par le papa, le chromosome Y, et par la maman, l'ADN mitochondrial, évidemment, avec les deux ensemble, vous voyez ici, il y a un couple. Hein, alors moi, j'ai mis des chromosomes de différentes couleurs pour montrer qu'on est, on est tous différents. Et puis ça donne des descendants, là ici un garçon qui va hériter de son père un bout de chromosome rose et puis de sa mère un bout de chromosome rouge. Il peut y avoir même des échanges entre les chromosomes, bon ben ça vous le savez, hein. Donc du coup vous avez un chromosome qui est rose et blanc, bon, très bien, et ainsi de suite. Donc là, bon, c'est une représentation, hein. On peut appuyer, donc encore une fois, voilà, donc on peut suivre par exemple le petit chromosome Y, on peut le suivre, et puis on peut suivre l'ADN mitochondrial de la mère, d'accord. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut suivre comment les populations se sont construites ou comment elles ont migré. Voilà. Alors en fait, on a montré que l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, quand on fait cette étude de population, elles vont toutes les deux supporter l'hypothèse hein, d'une origine africaine, hein, ce qu'on appelle Out of Africa, mais vous voyez plutôt 150 000 ans. On avait dit 100 000, hein, on est autour de 150 000, donc on n'était pas très très loin. Donc, avec les restes archéologiques, il y a toujours des archéologues qui partent en Afrique, au Zimbabwe par exemple, hein, rechercher des ossements, donc des premières traces Homo sapiens ou même antérieures, hein, pour évidemment dater cette origine humaine. Alors, avec l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, on peut même aller encore plus loin pour comprendre qui on est. Donc on peut effectivement prendre l'ADN des uns et des autres, des différentes populations. On peut prendre des gens qui sont du Sénégal, du Cameroun, d'Éthiopie, on peut prendre des Grecs, des Italiens, on peut prendre des communautés juives ashkénazes qui sont restées en Europe centrale et qui sont plutôt ensemble dans leur mariage, donc on sait que ça forme quand même une population. Donc on peut prendre un certain nombre de personnes et puis on peut voir, voilà, c'est une représentation, de voir qui est proche de qui. Donc effectivement, on peut retrouver une structuration géographique, hein, c'est-à-dire les Africains en Afrique. Hein, donc on voit effectivement Sénégalais, Camerounais, Éthiopiens, mais vous voyez que les Éthiopiens, finalement, sont quand même assez éloignés des Sénégalais, alors qu'ils sont proches des Camerounais, par exemple. Donc, vous voyez, l'Éthiopie, c'est déjà un petit peu à part. Et quand on regarde le chromosome Y, eh bien, on a une autre interprétation. C'est-à-dire avec le chromosome Y, on voit que les Éthiopiens, ils sont beaucoup plus proches des Juifs qu'on le voit avec l'ADN mitochondrial. Donc, ce qui prouve qu'il y a eu des migrations et puis bah, des choses en commun qu'on peut voir effectivement avec l'ADN mitochondrial, mais qu'on ne verra pas avec le chromosome Y. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux... En fait, les deux approches, et ça permet de comprendre comment en fait les mariages se sont faits, qui s'est déplacé aussi, hein, peut-être que des migrations qui sont faites par des hommes et pas par des femmes qui restent. Il y a plein d'hypothèses, hein, donc là, c'est intéressant de travailler avec des historiens et des géographes. Hein, qui comprennent un peu l'histoire, ces histoires qui sont des histoires finalement culturelles. Voilà. Et on en a des traces au niveau génétique. La preuve. Hein. Vous auriez pensé que vous, que l'Éthiopien était proche d'un juif ashkénaze hein. A priori, on dirait absolument pas. Voilà. Et donc, d'un grec, d'un italien, ils ne parlent pas la même langue, ils ont. Vous voyez qu'on a une histoire commune hein, qui est parfois surprenante. Voilà. Alors, ça c'est une représentation très intéressante parce que le chromosome Y, on fait des. Il a différents marqueurs, hein, hein, le chromosome Y, hein, des séquences génétiques. Hein, on peut donc en prendre une. Et puis on peut suivre, du coup on forme des haplogroupes. Attends, on va revenir avant. Donc vous voyez là, au Moyen-Orient, voilà la fréquence d'une séquence hein, du chromosome Y. Puis vous voyez que plus on va vers l'ouest, hein, plus on va vers la France finalement, hein, ou l'Espagne, plus cette fréquence diminue, hein, ce qui est en rouge. Donc ça, on peut le relier effectivement à des migrations. Hein. Et dans la carte suivante, on peut suivre l'expansion de l'agriculture. Hein. Vous savez que l'agriculture, elle est née dans le croissant fertile, vous êtes au courant? Il y a à peu près 90 000 ans, donc on l'a dit que l'origine de l'homme, c'était 150 000. Vous voyez, le temps qui passe, qui monte pour passer au niveau du Moyen-Orient, hein, on pourrait même dire que c'est le Proche-Orient, là. Le croissant fertile, c'est l'actuelle Turquie, un petit peu le Liban, Israël, un petit peu l'Irak, l'Iran, enfin tous les pays où on ne peut pas trop aller en ce moment. Il y a des civilisations anciennes dans lesquelles on a trouvé des poteries, des restes de graines de céréales, et on a pu comprendre que à ce moment-là, les hommes s'étaient sédentarisés et avaient commencé à cultiver, notamment du blé, de l'orge. Je vous donnais un tableau. Et à partir de, vous voyez, la Turquie, hein, vous voyez Chypre, et c'est ça le croissant fertile. Effectivement, ça forme un croissant, sauf qu'il est à l'envers, comme ça. Et vous voyez ici, plus ça devient blanc, plus la migration des hommes hein, vers l'ouest, hein. Donc, le blé, il a été cultivé ben, plus proche de nous, hein, en France, qu'il n'a été dans ce croissant fertile à peu près il y a 90 000 ans. Voilà. Donc, on peut suivre ça. Le croissant fertile, vous voyez, c'est cette région assurée. Donc là, les agriculteurs, ils ont commencé à migrer. Donc, les types d'agriculture aussi. Hein, donc, vers l'Europe hein, et puis aussi vers l'Afrique hein, ils sont redescendus après et puis évidemment vers l'Eurasie. Voilà, donc après il y a des groupes comme le néolithique hein, en Anatolie qui a donné effectivement d'autres formes d'agriculture, mais c'est à ce moment-là on est à peu près à 90 000. Alors voilà, bon c'est un petit peu trouble mais c'est pas très grave. Voilà le fameux croissant fertile hein, on voit les différents sites, c'est les petits triangles, les petits losanges noirs, sont les sites archéologiques. Donc les généticiens, ils travaillent avec les archéologues, avec des historiens et des géographes, hein, bien sûr, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est les vestiges de ces premiers hommes qui ont inventé l'agriculture, en somme. Voilà. Donc, voilà. Et donc au Moyen-Orient, l'engrain, l'amidonier, l'orge, le pois, il y a à peu près 9000 ans. Le pois chiche, c'est un petit peu plus proche, mais la lentille, la veste, le lin, vous voyez, c'est à peu près 8000 ans. Mais il y a eu d'autres lieux où on a fait l'agriculture, hein, en Chine, au Mexique et au Pérou. D'accord ? Où on a commencé en fait à cultiver et donc à consommer du millet, du riz. Le riz il a été domestiqué deux fois, hein, probablement au nord et au sud de la Chine. Hein. Le Mexique, par exemple, vous savez que le maïs il vient de là-bas. Hein, il vient du Mexique, hein, de la théosinte, c'est son ancêtre. Les courges, il y a deux types de courges hein, au Mexique et au Pérou. Donc il y a à peu près, vous voyez, 9000 ans. Peut-être un peu moins pour certaines espèces. Donc ça correspond bien à ces migrations d'hommes hein, qui se sont arrêtés pour cultiver. Voilà. Alors, j'allais dire deuxième partie de l'exposé, hein, c'est évidemment les études génétiques médicales. Hein. Donc là, vous avez une population ancestrale avec quelqu'un qui est sensible au paludisme. Donc, voilà, on migre, en Afrique ou en Europe. Et puis, en fait, on se rend compte que le paludisme, vous savez qu'il est apporté par les moustiques, exactement. Et on se rend compte bah, que nous, on n'a évidemment pas cette pression. Hein. Il n'y a pas de moustiques en Europe. Hein. Mais alors qu'en Afrique, vous pouvez attraper le paludisme, sauf quand vous êtes européen, hein, vous êtes obligé de vous prémunir, hein. Bien sûr, les Africains aussi ont le paludisme, hein, mais eux, ils ont une pression pratiquement quotidienne, alors que nous, on n'a pas. Bon, donc c'est un peu pour illustrer le fait que selon là où on habite, on n'aura pas la même susceptibilité ou la même résistance, hein. Et donc, quand on voyage, ben, on va se retrouver face à des situations où on n'est pas du tout prémuni, hein. Donc, il faut avoir un bon système immunitaire pour pouvoir, évidemment, résister. Alors, évidemment, à travers les maladies génétiques, on peut savoir qui on est, hein. Y a des mutations qui arrivent au cours de notre vie. On peut naître sain pour telle maladie et puis au cours de notre vie être malade de cette maladie-là parce que il y a un gène qui dysfonctionne. Bon, on peut hériter aussi d'allèles, enfin de donc tout le monde sait ce que c'est, une forme d'un gène qui confère une maladie. Donc en fait, les maladies, notamment génétiques, sont des marqueurs, hein, de nos origines. Je viens de mon père, je viens de ma mère qui est malade, moi aussi, bon. Mais elles peuvent apparaître aussi dans la vie. Bon. Alors, l'autre question c'est, si elles apparaissent, serais-je malade? Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des tests génétiques maintenant qui sont vendus sur Internet. Vous êtes au courant de ça? Non? Ben, je vais vous en parler. Et ces tests-là, donc j'ai fait exprès de le marquer en anglais, hein, parce que c'est surtout vendu sur Internet aux États-Unis. Donc, il y a à peu près une trentaine de sociétés web qui sont vraiment sur Internet. Vous ne les trouvez pas dans la rue, hein, bien sûr. Qui vendent, vous voyez, ces petits kits. Et en fait, pour un savoir si vous avez tel gène, vous allez payer peut-être 100 dollars, peut-être moins même, pour avoir la totalité de votre génome personnel. Faut débourser 350 000 dollars, donc là ça commence à faire une très très grosse somme, hein. Cependant, le prix va certainement baisser, soi-disant avec un conseil médical relié. Bon, alors j'ai été regarder pour vous, donc c'était dans Nature Biotechnology de 2008, donc vous voyez, il n'y a pas longtemps, hein. Et j'ai été voir sur deux sites, donc il y a 23andMe, ça veut dire les 23 paires de chromosomes que nous avons tous, hein, nous les humains. C'est la femme du fondateur de Google qui a fondé cette entreprise-là. C'est aux États-Unis, en Californie. Puis vous avez des codes Diagnostics qui est basé en Islande, qui se propose de séquencer votre génome ou bien de vous dire si vous avez telle prédisposition génétique. Alors, j'ai fait exprès de vous le laisser en anglais pour parce que c'est complètement interdit en France, hein. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc, vous voyez, c'est les différentes sociétés, hein. Alors, il y en a une à Mountain View en Californie, Consumer Genetics, Datacode, bon, très bien. Puis voilà, elle vous offre des tests pour déterminer si vous avez une prédisposition au cancer du sang, c'est charmant. On vous dit, bah, vous allez peut-être être obèse, si vous avez, messieurs, peut-être le cancer de la prostate plus tard, etc. Et on vous dit comment procéder. Donc on vous propose un petit coton-tige, hein, que vous introduisez dans votre bouche et vous prélevez de la salive, hein, tout simplement. Et puis ben vous envoyez ça sous forme de petit kit, hein, à la société en question, qui va vous renvoyer le test génétique. Donc là, c'est strictement interdit en France, pour la bonne raison que on ne fait des tests génétiques en France que pour des raisons médicales, parce que vos parents sont malades, ou votre frère ou votre sœur est malade et que vous pouvez avoir cette maladie-là. Donc, c'est pour prévenir et mettre en place, par ce diagnostic, éventuellement un traitement. Il faut savoir que ce sont des prédispositions. C'est pas sûr du tout que vous allez déclencher la maladie, hein. Donc voilà les tests qui sont utilisés, hein, en France, hein, et qui sont autorisés. Et puis vous avez donc là des tests vraiment pré-symptomatiques. Là, c'est sûr que si vous avez ces gènes-là, vous allez déclencher la maladie. Puis d'autres, c'est des prédispositions. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les tests génétiques, on peut les faire aussi pour dans un cadre judiciaire, hein, pour confondre un assassin, hein, pour le trouver s'il y a une trace de son ADN et qu'il a évidemment une maladie génétique rare ou une forme, évidemment on peut détecter comme ça. Voilà. Alors, ces maladies-là, elles peuvent être monogéniques, donc ça, vous savez ce que c'est que monogénique, j'imagine. Ça veut dire que c'est un seul gène, hein. Donc là, on peut identifier la mutation, et là, avec une très forte probabilité, on est sûr que vous allez être malade. Hein. Donc, ça forme votre différence, en somme. D'accord ? Alors là, c'est une mutation à hérédité dominante. Hein. Alors, j'ai mis un grand thème pour maladie. Hein. Donc là, par exemple, c'est s'il y a un gène qui est muté sur un des deux chromosomes et qui n'est pas sexuel, hein, autosome, ben là, vous allez avoir cette maladie. Ça concerne une forme de nanisme. Évidemment, l'enfant, à la naissance, hein, il y en a un sur deux qui sera atteint, hein, dans la descendance. Vous avez la maladie à hérédité récessive, c'est la mucoviscidose. Alors, il y a différentes gravités, hein, de la maladie. Hein, mais il y a un enfant sur quatre qui peut évidemment tomber malade si les deux parents sont porteurs de la mutation. Vous voyez qu'on est quand même tous différents à ce stade-là. On a d'autres formes. Les mutations qui sont liées au chromosome X, donc là, on peut avoir donc des développements de la maladie comme celle de la myopathie de Duchenne, hein, qui est quand même assez, assez grave. Alors, selon que c'est les chromosomes X qui portent, hein, donc il n'y a pas de conséquences. Par contre, si c'est sur le chromosome X du garçon, c'est un autre problème. Voilà, la maladie se développe. Alors, il y a d'autres formes d'amplification, vous savez, de petits triplets dans l'ADN qui vont s'accumuler de génération en génération. Donc là, évidemment, la maladie va apparaître progressivement de génération en génération, mais ça va s'aggraver au cours du temps. Voilà. Et ça, par exemple, c'est une maladie comme neurodégénérative, comme la maladie d'Huntington, qui est d'ailleurs la maladie phare, hein, de la médecine prédictive. Donc, alors évidemment, avec le séquençage de l'ADN et en regardant ces formes de triplets sur votre ADN, ben, on peut prédire que ben, vous allez avoir la maladie de Huntington. Et évidemment, on ne peut pas prédire à quel âge, hein, ni sa gravité, mais quand même, on pourra dire que vous êtes malade. Alors, évidemment, il y a des gens sur Internet qui se disent, notamment ceux qui sont nés de fécondation in vitro avec donneurs anonymes de sperme, par exemple, voire d'ovocytes, qui veulent savoir d'où ils viennent, connaître son origine. C'est important. Bon, certes, c'est important de savoir qu'on vient d'Australovicus, mais de savoir quel est notre père. Donc, il y a des jeunes Américains sur Internet qui font ces tests d'ADN pour différentes formes de gènes. Et ils forment des communautés, d'accord, où ils savent que finalement, un tel a la même maladie que moi. Alors, vous dire, c'est quand même insuffisant pour savoir si c'est un demi-frère ou une demi-sœur, hein, c'est certain. Mais vous savez que les donneurs de sperme en France, c'est des donneurs anonymes, c'est un don. Vous n'avez pas le droit de vendre votre sperme, c'est un acte généreux et totalement anonyme. Hein. C'est les lois de bioéthique qui sont actuellement révisées, hein, d'ailleurs, dans l'hémicycle. Aux États-Unis, vous le vendez. Donc il y a beaucoup d'étudiants, enfin beaucoup. C'est une forme de gagne-pain. Vous vendez votre sperme comme vous pouvez vendre votre sang et vous gagnez de l'argent. Donc y a, dans les facs américaines, il y a des étudiants américains qui vendent leur sperme. Et en général, les fécondations in vitro se font dans l'équivalent d'un hôpital universitaire, si vous voulez, comme nous on a les CHU, dans les hôpitaux qui sont près de ces universités-là. D'accord ? Donc, les jeunes gens et les jeunes filles qui sont à la recherche de sperme qui est anonyme, ils font des recoupements. Et sur cette plateforme de test génétique, Direct to Consumer, ça s'appelle. DTC, directement au consommateur, ça s'appelle, ces tests-là. Ils peuvent être en contact les uns et les autres. Et il y a des forums de discussion pour savoir, alors toi, t'es sensible au diabète insulino-dépendant de type 1, moi aussi. Quand est-ce que t'es né? Très bien. Fécondation in vitro, pas fécondation in vitro. Enfin, il y a des discussions. Moi, je suis allée sur ces forums-là, j'étais assez étonnée. Puis il y a même des gens qui disent, toi t'as le diabète, moi aussi, ce serait bien qu'on se rende compte qu'on a des choses à se dire, peut-être que plus ici affinité. Mais vous avez des communautés qui se forment et il y a des gens qui se sont retrouvés, des demi-frères et des demi-sœurs, parce qu'à force de recoupement, avec ces tests-là, effectivement, on y arrive. Donc, par ressemblance génétique. Alors que serait croisé dans la rue, il se dirait on est vraiment différent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit diversité génétique, souvent on parle de discrimination. Ça vient tout de suite à l'esprit. Alors, j'ai été chercher dans les textes de loi qu'est-ce qu'il y avait autour de cette diversité humaine. Et donc, dans la discrimination, vous avez un article du Code civil, et notamment dans la loi 2002 du 4 mars, qui est conforme à une convention d'Oviedo sur la bioéthique. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. Que vous alliez, même si vous tombez malade ou pas, vous avez cette forme génétique-là, pour autant, on n'a pas le droit de vous discriminer. Alors, les discriminations, c'est par rapport à la catégorie des handicapés, par rapport à l'emploi et par rapport à l'assurance. Donc, on va regarder ensemble. Donc, évidemment, on pourrait prévoir des naissances, et c'est quand même ce qu'on fait pour certaines maladies graves au moment du diagnostic, et qui sont malheureusement incurables. Au niveau de la fécondation in vitro, on va faire un test de telle façon qu'on ne va pas implanter un embryon qui a eu un test génétique qui va montrer une maladie d'une particulière gravité. Donc, évidemment, il faut faire attention de ne pas augmenter cette liste-là, parce qu'on pourrait exclure des handicapés, et notamment la trisomie 21 qui est proposée à l'heure actuelle aux mamans pour détecter, c'est proposé, vous pouvez refuser. Et puis, vous pouvez aussi refuser une interruption médicale de grossesse. Pourrait être, on va le savoir bientôt, si dans la nouvelle loi de bioéthique qui va être révisée d'ici quelques jours, si ça sera effectivement une maladie génétique qu'on va détecter systématiquement dans les tests pour réimplanter un embryon, par exemple. Parce qu'il y a quand même toute la question de l'handicap derrière. Si on supprime cet handicap au départ, quid de ceux qui existent à l'heure actuelle? Quel regard on va porter sur eux, d'une part? Est-ce que la société, elle est vraiment préparée à bien intégrer les handicapés dans la vie, dans la cité? Est-ce qu'il y a suffisamment d'hôpitaux de jour, d'institutions? Donc, faut pas non plus les oublier. Et en même temps, effectivement, il faut prévenir l'handicap. Sinon, il y aurait un sentiment d'anormalité. On va revenir un petit peu en arrière, juste. Parce que un individu, il est aussi, identifié par ses signes sociaux, culturels, et pas seulement par son équipement génétique, évidemment. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut discriminer des gens dans leur emploi? Ça, c'est quand même une grande question à l'heure actuelle. Eh bien, le Code du travail, dans son article 122.45, il interdit toute discrimination à l'embauche d'une personne en raison de son état de santé ou de son handicap. Alors, évidemment, dans certains métiers, il ne faut pas avoir un certain type de difficulté, parce que vous ne pourrez pas réaliser la tâche professionnelle. C'est évident, c'est même pour vous. D'accord? Mais s'il n'y a pas une incompatibilité, on n'a pas le droit de vous discriminer sur votre état, j'allais dire, génétique et de santé qui serait lié à cet handicap. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention. Hein. J'ai fait exactement 45 minutes. Alors là, je suis ouverte à toutes vos questions. On est entre nous, on peut...